Bonjour et merci d'avoir choisi cette vidéo sur les nouveautés d'IIS 10. Alors comme vous le savez, le monde du web évolue énormément en ce moment. On a des nouveaux langages, des nouvelles plateformes, des nouveaux outils de développement tous les jours. S'il y a une chose qui reste assez stable dans l'environnement Microsoft ou du moins, c'est bien le serveur web IIS. Donc avec Sébastien, nous allons voir aujourd'hui les différentes avancées, les différentes nouveautés de la dernière version d'IIS, IIS 10. Alors s'il y a bien un sujet dont tout le monde parle en ce moment sur le web, c'est le support d'HTTP2. Donc Sébastien, il me semble qu'on a fait pas mal d'avancées sur les dernières versions de Windows sur le support d'HTTP2. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Oui, effectivement. Donc IIS 10 maintenant supporte HTTP2. La norme a été finalisée en mai 2015 par la RFC 7540.
Très précis, merci.
Le but est très simple, c'est vraiment d'accélérer les téléchargements en démultipliant les transferts entre les clients et les serveurs pour réutiliser au maximum les connexions TCP.
Ok, est-ce que tu peux nous montrer ce que ça donne concrètement comme avantage?
Oui, alors j'ai pris par exemple le site Akamai qui est disponible en public, qui est constitué de deux frames, la partie gauche qui est vraiment bridée en HTTP 1.1, et la partie droite qui est libérée, le potentiel libéré pour HTTP2. Donc si on rafraîchit la page, vous allez voir que sur HTTP 1.1, les différentes images que constitue la frame de gauche sont téléchargées de façon synchrone et entre guillemets par bloc les uns après les autres, parce que la norme HTTP 1.1 obligeait d'attendre le retour des premières requêtes pour pouvoir déclencher les téléchargements suivants. En HTTP2, ça a été amélioré, on peut faire plus de requêtes simultanément sans attendre le retour, pardon. Et surtout, voilà, le serveur a des mécanismes de push pour pouvoir fournir des ressources sans qu'elles soient demandées par le client.
Ok, donc on gagne en rapidité, on gagne en performance pour ces applications web. On a peut-être plus l'obligation d'utiliser toutes les techniques d'optimisation qu'on connaît sur le développement web depuis quelques années. Donc ça, c'est très bien. Une autre nouveauté qui est disponible également et qui était attendue depuis pas mal de temps, c'est le support des sous-domaines génériques. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus?
Oui, c'est vrai que là, c'est un exemple de retour qui est apprécié par Microsoft, par ses utilisateurs. C'est que on demandait depuis quelques temps le support des noms de domaine de façon générique sans avoir reconfiguré à chaque fois les sous-domaines. Donc maintenant c'est inclus dans IIS 10. Donc typiquement sur un site par défaut, en changeant la partie binding sur HTTP ici, on peut spécifier non pas tous les sous-domaines mais étoile point, par exemple contoso.com, et cette configuration fera que tous les sous-domaines support.contoso.com, finance.contoso.com, etc., aboutiront et seront traités par ce site web-là sans qu'on ait de configuration supplémentaire à effectuer.
D'accord, donc finalement, c'est l'application derrière qui va traiter si jamais elle doit envoyer un contenu différent en fonction du sous-domaine ou l'autre.
Exactement.
Ok, très bien. Je vois que cette configuration, tu l'as fait pour IIS à partir de l'interface graphique. Donc, on va de plus en plus automatiser les changements de configuration. Aujourd'hui, on a une expérience en PowerShell qui existe depuis quelques temps sur IIS, mais il me semble qu'on l'a pas mal amélioré sur la dernière version.
Oui, c'est vrai qu'on avait aussi des retours sur les commandes PowerShell, le module d'administration, avec certaines lenteurs et puis certaines non-adéquations avec les principes PowerShell d'enchaînement des commandes. Mmh. Donc là, on a créé un nouveau module. Donc l'ancien est toujours présent et totalement utilisable. Le nouveau module, lui, par contre, amène de nouvelles commandes qui, elles, sont totalement enchaînables et qui permettent de récupérer des objets de type un site, un pool d'applications ou autre et d'effectuer des requêtes et des commandes sur ces objets-là.
D'accord, donc plus intégré à l'environnement PowerShell finalement.
Voilà. Donc typiquement, si on fait un get commande avec le module donc IIS administration, on a la liste des nouvelles commandes, donc documentées évidemment. Je peux par exemple prendre la commande IIS à pool pour faire une modification sur un pool d'application.
Allez.
Donc je vais mettre dans un pool d'applications, une variable, donc get IIS. La pool. Donc si je fais ceci, je vais récupérer forcément tous les pools d'applications.
Ah, ce sera une collection en PowerShell.
Donc je vais filtrer et
Tu
puis.
filtres avec QWERTY-Object. J'imagine que tu vas filtrer sur le nom pour récupérer le pool d'applications qui correspond à celui que tu souhaites utiliser.
Exact. Par exemple, le pool d'application par défaut. Ici. Donc dans mon objet pool, j'ai mon pool d'application défaut à pool sur lequel voilà, je peux effectuer une commande comme le démarrer.
Avec start.
Par exemple.
Ok, donc là, est-ce qu'on est sûr qu'il est starté, si je puis dire? Est-ce que tu peux nous lister les pools d'applications? Effectivement, ils sont bien tous démarrés maintenant. Donc là, on a l'expérience qui est bien plus intégrée à PowerShell avec un certain nombre de commandes supplémentaires, des nouvelles possibilités. C'est parfait. Donc, on a également des nouveautés qui proviennent directement des équipes de développement d'Azure. Donc on a sur Azure un certain nombre de services, dont des services qui permettent d'héberger des applications web. Il y en a un qui s'appelle Azure App Service et sur lequel les équipes se sont appuyées sur IIS mais ont dû créer de nouvelles fonctionnalités qui sont maintenant disponibles pour tous. Alors la première de ces fonctionnalités, c'est la possibilité d'injecter des variables d'environnement directement dans le processus, dans l'application pool de votre application, sans que vous soyez obligé de passer par des variables d'environnement système, par exemple.
Mais c'est vrai qu'on a on a tout le temps à l'esprit variable d'environnement égale système ou session utilisateur, mais on peut très bien fixer une variable d'environnement pour un processus. C'est ce que l'on peut faire sur IIS10. Donc pour le moment, l'interface ne le permet pas, donc on va basculer en ligne de commande PowerShell. C'est pour ça que la syntaxe n'est pas forcément très lisible, mais au final, qu'est-ce qui est fait? On voit bien qu'on modifie la configuration pour rajouter une variable d'environnement pour le pool d'application par défaut. Et cette variable va s'appeler version config avec une valeur que j'ai positionnée du type production.
OK.
Donc, je lance la commande. Voilà, elle est. C'est pas la démonstration la plus visuelle. Hein.
Non, effectivement, mais comment on peut justement s'apercevoir que le changement a bien été fait?
Alors, on va lancer le pool d'applications en naviguant sur le site web par défaut. Mm-hmm. HTTP 2.
Localhost, j'imagine.
Localhost. Donc, je bascule sur Process Explorer pour visualiser mon processus qui s'est lancé en double-cliquant. Et dans l'onglet environnement, voilà. Qui nous liste les variables d'environnement, je vais retrouver celle que j'ai positionnée, version config avec la valeur.
D'accord. Donc là, comme tout à l'heure, finalement, donc ça c'est quelque chose qu'on a injecté pour permettre à l'application de traiter cette valeur et faire ce qu'elle doit faire en fonction finalement de ce paramètre applicatif. Alors une autre nouveauté qui vient également des équipes Azure, c'est la possibilité de faire tourner à partir d'IIS des processus externes qui vont faire tourner mon application sur des langages qui sont d'habitude pas supportés par IIS. Alors on l'a fait sur Azure dans le cadre de Java, pour faire tourner du Java à partir d'IIS, mais finalement en utilisant Tomcat ou Jetty. Mais c'est quelque chose qu'on va retrouver de plus en plus sur Azure, mais également chez vous, sur vos serveurs, puisque c'est la façon qu'on va utiliser pour faire tourner des applications ASP.NET Core. Donc ces applications ASP.NET Core, les prochaines versions d'ASP.NET vont utiliser un module, un handler qui s'appelle IIS HTTP Platform Handler. Est-ce que tu peux nous montrer comment ça fonctionne?
Oui, alors j'ai pris le projet Hello World tout simple que je vais publier localement sur mon disque, sur mon serveur. Avec Visual Studio. J'aurais très bien pu utiliser Visual Studio Code et puis lancer les lignes de commande directement. Je préfère faire ceci avec l'assistant pour vous montrer que je ne vais pas packager mon application ASP.NET Core sur D2.ASP.NET Core en sélectionnant la dernière version Core CLR 64 bits disponible sur mon serveur.
Ok, donc là tu vas packager, publier l'application, ça va faire un transfert de fichiers, ça va peut-être être un petit peu long. Est-ce que tu peux nous montrer comment IIS va reconnaître ce platform handler et comment il va le gérer?
Oui, en fait il va le gérer de façon tout à fait classique avec le web.config qui va se retrouver à la racine du site web. Donc dans ce web.config, IIS va pouvoir vérifier ici que ce handler va prendre en charge toutes les requêtes et c'est dans ces deux paramétrages-là que l'on spécifie quels sont les exécutables qui vont exécuter le code.
Qui ont traité voilà, les requêtes, qui vont être finalement passées simplement à IIS pour ces exécutables externes.
Tout à fait.
OK, la publication est terminée.
La publication est terminée. Je vais créer un nouveau site web pour pouvoir exécuter cette application-là. Je vais l'appeler ASP.NET Core. Donc en créant un pool d'applications du même nom, nouveau, je vais aller chercher le répertoire des deux points ASP.NET Core 3W root, parce qu'effectivement le packaging a créé ce répertoire là pour mon site web.
D'accord.
Je vais prendre le port 80 parce que le 81 parce que le 80 est utilisé. Et pour vous prouver qu'on ne charge pas justement le framework dans son ensemble, mais qu'on délègue le traitement au processus extérieur ASP.NET Core, je vais modifier le pool d'application pour ne pas charger le .NET Framework.
D'accord. Donc l'IIS, lui, n'aura pas connaissance finalement du .NET Framework. Il va simplement rediriger les requêtes vers ASP.NET Core.
Exactement. Donc tout simplement, je vais naviguer sur mon nouveau site web, sur le port 81. Donc voilà, le Hello World rebaptisé en Hello IIS est apparu.
Parfait. Donc une application ASP.NET Core depuis IIS grâce au handler, le IIS HTTP Platform Handler. Merci beaucoup Sébastien.
C'est moi qui te remercie Benjamin.
Si vous voulez tester tout ça par vous-même, n'hésitez pas à télécharger sur votre poste la dernière version de Windows Server 2016, donc en Technical Preview, ou à utiliser l'une des images sur Azure qui vous permettra de mettre un pied plus facilement sur la plateforme. Donc merci encore et à très bientôt pour une prochaine vidéo.